7h26, Jaël Cantin a été assassiné par son conjoint le 16 janvier 2020. D'ailleurs, le conjoint a été reconnu coupable samedi. Et on aura la sentence, mais c'est un automatisme, sentence à vie. Jaël Cantin était mère de 6 enfants. Et le procès a mis en lumière les circonstances de sa mort, a mis en lumière sa vie de couple. Ces jeunes enfants qui ont été témoins de cette violence, les proches qui, pendant toute cette période, depuis 1 an et demi, doivent bien sûr encaisser le choc, mais se ressaisir parce qu'il y a ces 6 enfants à s'occuper. Son père est avec nous, M. Gaétan Cantin. M. Cantin, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcan.
M. Cantin, je vous entends depuis quelques jours parler de la vie qui a suivi la mort de votre fille. Et je pense qu'on commence à réaliser qu'au-delà du procès où on rapporte les faits puis on juge l'accusé, depuis 1 an et demi, vous avez dû non seulement vous reprendre en main, mais vous occuper de vos 6 petits-enfants.
Exactement. Disons qu'on n'a pas fait ça seul depuis le jour 1. On est un groupe, un lien familial très, très tissé serré. La famille directe, un petit peu plus éloignée, qui se sont regroupés à nous afin de pouvoir justement prendre en charge ou prendre soin, s'organiser pour réorganiser la vie des petits. Du jour 1 de à venir à aujourd'hui, on est très bien entouré, tout le monde se tient bien pour pouvoir justement faire avancer la vie des petits-enfants. Bon, c'est 6 petits-enfants plus 2 de ma fille qui, bon, c'est un groupe de 8 finalement là qu'il faut prendre soin tous ensemble puis voir à ce que on mène à bon point leur vie et les faire avancer malgré toute cette épreuve-là.
Comment y vont les enfants?
Très bien. Je suis obligé de dire que dans des circonstances comme ça, nous, les adultes, c'est sûr que on dit toujours « Ah, faut protéger les enfants, faut faire attention, c'est ci, c'est ça. » Les enfants, je dois utiliser le mot « résilience ». Je sais pas si c'est vraiment approprié, mais la force d'un enfant de se soucier du jour même aujourd'hui et de même pas penser à demain, vivre au jour le jour. Et c'est sûr que dans le fond de leur pensée, en arrière-plan, il y a toujours leur mère. Bon, en même temps, pour les deux qui ont accueilli, les deux petits qui ont accueilli chez eux à bras ouverts, les 6 qui sont arrivés un bon matin, ben ça aussi, c'est comme de l'acceptation. Ça fait partie de leur vie. Ils ont perdu leur petite tranquillité dans leur petite maison avec les deux parents, puis on est arrivé 8, 10 pour 2 mois, on était tous ensemble. Donc, c'est ça. Les enfants, bien honnêtement, malgré toutes les épreuves qui ont suivi le procès, être au courant que papa est en prison, qu'est-ce qui va arriver? Les enfants sont très, très... Je vais revenir au mot résilience.
OK. Comment on les approche ou comment on se laisse approcher par eux quand arrive le drame? Parce que, on le dit, des enfants, ils sont conscients, ils ont été témoins, en tout cas une partie d'entre eux ont été témoins, oui. Là, c'est épouvantable. Là. Comment dans les premiers jours, on établit des liens avec des enfants marqués comme ça?
Oh, c'est des prendre à bras le corps, des cajoler, des écouter, d'essayer de... Les plus dures périodes dans les premiers jours ont été vraiment la période des dodos et la nuit qui suivait parce que, bon, les enfants, bon, un, il n'y a personne qui voulait coucher tout seul dans sa chambre. Et oui, on n'avait pas l'espace pour. Puis même les premières nuits chez ma fille à Saint-Anne-des-Plaines, les enfants voulaient tous coucher dans la même chambre. Il y avait un lit, puis le restant, c'était une grande chambre quand même. C'est des matelas au sol, puis on se réveillait ou on allait les voir, puis à un moment donné, ils étaient couchés 2 par matelas, puis il y avait des lits de trop, là. Fait que c'est ces bouts-là, c'est des réconforter, de prendre soin d'eux, les pleurs qu'on avait la nuit, puis difficulté à dormir. Même les adultes, après des aventures comme ça, c'est difficile. Fait que pour les enfants, c'est compliqué. Là.
Vous avez quitté la maison pendant une période de 2 mois, après un drame comme celui-là, parce que, bon, votre fille habitait avec son conjoint à côté, là.
Oui.
On pourrait penser que l'idée de vendre la maison puis d'aller s'établir ailleurs, changer complètement le décor, ça aurait été le réflexe, mais vous avez tenu à garder la maison.
Effectivement. C'est sûr que moi, le soir même, quand j'ai rencontré les policiers, puis on était à l'extérieur, puis on discutait, ma première réponse, mon premier réflexe, ça a été de dire à un des policiers qui était avec moi, « Tu sais, j'ai dit, la bâtisse ici, c'est un lieu famille, c'est les Quentin qu'on a construit, puis ça peut pas s'arrêter, l'histoire de la maison peut pas s'arrêter là-dessus. » Les jours suivants, je dois avouer que j'ai songé sérieusement à dire, « OK, on vend toute la patente, puis on s'en va. » Ensuite de ça, ben là, faut penser, là, c'est le côté monétaire qui rentre en ligne de compte. Vendre une maison après une situation comme ça, le marché de l'immobilier a beau être bon, ma maison vaut pas rien, là, ou à peu près. Fait qu'on a revenu à notre idée de base de dire, bon, on va reconstruire, on va se réinstaller, puis nous, on a pris la décision de réoccuper la grande partie de la maison où mes parents ont déjà demeuré, mes sœurs, et tous ensemble, quand on a construit la maison, puis on a décidé de recréer une atmosphère de maison de grands-parents.
Je le disais tantôt, votre fille a été assassinée au mois de janvier, oui, 2020. Il y a eu, malheureusement, beaucoup de féminicides qui se sont ajoutés, oui, dans les mois qui ont suivi. Parlez-moi de votre fille un peu. Saviez-vous qu'elle vivait des moments difficiles? C'était quel genre de fille?
Honnêtement, nous, on était de proches, là. C'est sûr qu'on on couchait pas ensemble, là, mais on n'aurait jamais pu se douter ou nous n'avons jamais eu aucune connaissance qu'il y avait des problèmes. Bon, on pouvait s'imaginer qu'il y avait peut-être certaines difficultés financières à l'occasion. Bon, ben, parce que, bon, les fins de mois devaient être difficiles avec le Costco à 500 $ par semaine, là. Mais de là à penser qu'il y avait de la maltraitance dans la maison, que ce soit contre elle ou contre les enfants, il n'y a personne qui a jamais eu connaissance de rien. Donc, c'est le moment d'une soirée, là.
OK. Vous avez dit, dans quelques entrevues que vous avez accordées, vous n'êtes pas en mode vengeance. Vous n'êtes pas en mode... J'imagine, puis c'est vous qui pouvez le dire ce matin, on doit passer par toutes sortes de réactions, de la rage, de la colère, une souffrance épouvantable. Quelles ont été un peu les étapes depuis un an et demi pour vous?
Honnêtement... Bon, pour en revenir, c'est certain que dans le fin fond de nous-mêmes, de moi-même, on a tous une certaine colère. Par contre, la colère, la rage, ça amène à des drames. C'est ce qui s'est passé dans les faits avec Jaël. L'aboutissement final d'un truc comme ça, c'est ce qui se passait dans leur vie qu'on ne connaissait pas au bout de la ligne. Ben, c'est ça. Puis, faut rester la tête positive, garder notre tête positive pour le bien des enfants, pour notre bien personnel, parce que ça ronge l'intérieur puis ça brûle nos énergies. Fait que ça donne absolument rien de faire ça. Puis c'est certain que le souci de toute l'année était d'attendre un verdict, parce que tout au long de l'année, bon, la couronne, les policiers, les enquêteurs nous disaient, on a un dossier solide, on va arriver à bon port, mais il y a toujours un 1% d'inconnu. Donc, c'est le jury. Fait que ce 1%-là, bien jusqu'à la dernière seconde avant la lecture de la lettre du jury, on l'a derrière de notre coco, là. Mmh. Bon, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'on fait si lui, il est déclaré non coupable. Oh, c'est ça qui nous rongeait le frein le plus, je vous dis. L'inquiétude qui se retrouve dans la rue, puis les enfants ont peur de revoir leur père dans la rue. Fait que là, ben ça met un terme à tout ça.
Quels sont vos plans d'avenir? Comment vous allez voir un peu les prochains mois, les prochaines années pour vous et pour les enfants?
Bien là, c'est toujours le fameux travail de conclure la succession, récupérer des sous qu'il y a là-dedans pour les remettre à la famille et aux enfants pour qu'ils puissent, les petits montants qui sont en attente directement dans un compte de banque présentement, on ne peut pas y toucher. Il y a une assurance vie qui a été payée de l'assurance vie du travail de Jaël, ben ça a été déposé au nom de la succession. La succession, présentement, c'est tout figé en attente de tout. Il faut qu'il soit déclaré l'assassin ou l'accusé doit être déclaré indigne. Donc ça, c'est des démarches supplémentaires à conclure pour arriver à aboutir. Quand on aura fait toute cette paperasserie-là, probablement que ensuite on pourra se consacrer à une vie en normalité, si on peut dire. J'aime pas utiliser le mot normal, mais on voit que, bon, refaire des bons parties dans nos maisons, accueillir les enfants, la piscine l'été, puis etc., partir en camping, amener les petits sur notre bateau. On a un petit voilier bien modeste, mais on peut les amener à coups de bœuf pour des fins de semaine, pour leur changer les idées, puis montrer que la vie est belle encore.
Un jour, je parlais avec un procureur de la Couronne qui me disait, il dit, tu sais, dans un procès comme celui-là, là, les parents apprennent beaucoup de choses parce que c'est une preuve qui est présentée, et une preuve qui est difficile, une preuve technique sur ce qui est arrivé, sur ce que votre gendre a fait pendant des mois de recherche, puis vous avez découvert quelqu'un d'autre. Est-ce que vous souhaiteriez avoir une rencontre avec lui, le confronter, lui parler, ou si vous préférez ne plus jamais le voir de votre vie?
Moi, je ne ressens pas le besoin de lui parler. Présentement, tout ce qu'on a appris, on va dire une vie en parallèle, parce qu'on le connaissait pas dans les faits, puis ça va jusqu'à aller que même une de ses enfants, ce week-end, s'est confiée à ma conjointe en disant « Je connaissais pas mon père. Je connais pas mon père. » C'est quand même, ça dit tout ça, là. Fait que, encore là, dépenser de l'énergie sur cet individu-là, ça c'est malsain pour nous, là. Puis en même temps, on veut garder toujours à l'esprit que si on grandit de l'agressivité dans nos têtes face à cet individu-là, bien nous, on a les petits-enfants. Les petits-enfants, là, il y en a qui ressemblent étrangement à leur père. Bon, un jour, il y aura peut-être une obstination pour un petit quelque chose où un des jeunes nous fait un petit coup pendable. On voudrait pas qu'il nous sorte sans le vouloir des mots de la bouche pour blesser l'enfant puis le ramener encore à ça. C'est très complexe.
C'est vous avez parfaitement raison. En terminant, pourquoi vous acceptez de parler? Pourquoi vous répondez aux questions? Pourquoi vous le faites?
Moi, c'est une grande question. Je pourrais pas dire. J'ai quelque chose qui me pousse à le faire. Un, je crois, c'est pour faire prendre connaissance aux gens que, un, dans toute notre mésaventure, il y a du beau. On a traversé du beau au cours de l'année, malgré tout. Les prochaines années vont probablement être meilleures et c'est difficilement plus pire que ça a été. Puis, en même temps, ouvrir les yeux à écouter ce qui se passe autour de nous. Et en même temps, je dirais, je l'ai dit hier un petit peu, là, s'il y a quelqu'un ce matin qui nous entend discuter, puis qui a, dans sa tête, ça va pas, là, ben, s'il vous plaît, qu'on se déplace, qu'on l'accueille, puis qu'on l'écoute, puis qu'on offre les services. Ça, c'est la difficulté qu'on a aussi. Un mois de parler ce matin, c'est difficile, c'est humiliant des situations comme ça. Puis moi, j'essaie de promouvoir un message d'espoir pour tout le monde. Ensuite, d'éveiller les instances gouvernementales qui peuvent mettre en plan des trucs pour faciliter le chemin puis pour ces gens-là qui sont en difficulté. Puis pour les autres qui ont subi tout ça, moi, là, toutes les étapes qu'on a passées, qu'on est encore en train de franchir pour régler seulement des questions de papier, c'est incroyable. Puis il n'y a pas d'automatisme. On nous a dit, vous allez voir, vous allez avoir de l'aide, puis tout va bien aller. Mais il faut cogner et recogner sur le clou pour être capable d'avancer dans nos dossiers. C'est frustrant. Ça, c'est frustrant.
Monsieur Quentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes un homme de courage. Il n'y a rien d'humiliant dans ce que vous faites. Au contraire, vous parlez avec votre cœur, puis on sent l'amour que vous avez pour vos enfants, vos petits-enfants, puis le sens de la responsabilité. Et je peux vous dire que je pense que vous touchez le cœur de bien des gens ce matin et bien des gens en ont besoin. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, M. Arcand.
Bonne journée.
Passez une bonne journée.
Gaétan Quentin est le père de Jaël Quentin, qui a été assassiné janvier 2020. Son conjoint était reconnu coupable par un jury de meurtre prémédité. Et la vie continue pour les enfants. Il y en a 6. M. Quentin doit s'en occuper parce que c'est ça la priorité.